Alors, bonjour à chacun. Donc, vous aurez compris que c'est moi qui vais apporter le message ce matin. D'abord, je vais me présenter, même si beaucoup me connaissent déjà. Donc, Jean-René Moret, j'ai 23 ans. Ça fait, je pense, bien 18 ans que je suis dans cette église. Et puis, je suis actuellement en train de finir des études en physique. Bon, vous me direz, ça définit pas une personne, mais c'est pas ça le but du jour. Alors, donc, le sujet du jour, comme Norbert l'a mentionné, c'est que j'ai envie de parler de l'Ecclésiaste, donc qui est un des livres de la Bible de l'Ancien Testament, qui est un livre où il y a passablement de réflexions sur la vie et sur la marche du monde, et je trouve des réflexions qui sont assez pertinentes et qui, moi, des fois, m'ont passablement aidé. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses de ce que j'avais envie de souligner que les rebelles ont déjà mentionné dans leur témoignage. Et ils sont certainement mieux qualifiés que moi pour en parler. Donc, j'espère simplement faire un pas trop mauvais travail d'interprétation et de résumé de ce livre de la Bible, en sachant que pour ce qui est de la pratique, je suis encore pauvre en expérience. Donc, pour placer déjà un peu le contexte général, donc ce livre de l'Ecclésiaste, on le trouve aussi des fois sous le nom de Kohelet. Donc Kohelet est le titre hébreu et l'Ecclésiaste vient du titre des versions grecques. Sopherer, ça veut dire le prédicateur, ce qui veut dire qu'en poussant un peu, on peut dire que ce matin, l'Ecclésiaste, c'est moi. Bon, alors, ce livre de l'Ecclésiaste est attribué explicitement dans le livre au roi Salomon. Donc on peut se poser la question si c'est lui qui l'a écrit ou si l'auteur a mis ses réflexions dans la bouche de Salomon pour illustrer son propos. C'est une question que je ne vais pas trancher ni développer plus que ça ce matin. Mais en tout cas, c'est justement ses réflexions sur le sens de la vie et un aspect un peu philosophique. C'est aussi écrit sous la forme d'un enseignement d'un père à son fils, peut-être un père physique, peut-être un père spirituel ou un enseignant. En tout cas, c'est ça les tournures. Et puis c'est dans l'optique d'un homme qui arrive en fin de sa vie et puis qui a un peu tout essayé et ou qui a vécu beaucoup de choses et qui fait part de ses réflexions à ce sujet. Alors, un des refrains qui résume ses réflexions, c'est l'expression « vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite du vent ». Autrement dit, une constatation très optimiste qui dit que peu de choses ont du sens en ce monde. Mais enfin voilà, c'est ça une des choses qu'il dit. Alors maintenant, dans les choses qu'il a essayées, je parlerai en particulier de deux. La première, c'est la recherche de la sagesse, et l'autre, c'est la recherche des richesses et du succès. Donc, dans les deux cas, le roi Salomon est assez qualifié pour en parler, puisque d'après la Bible, il a été plus sage qu'aucun homme avant lui, et eu plus de richesses que presque aucun roi avant lui. Donc les deux choses il connaît. Et puis maintenant, j'aimerais voir un peu ce qu'il en dit. Donc un premier passage sur la sagesse dans l'Ecclésiaste au chapitre 1, les versets 17 à 18, où il dit: j'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. J'ai reconnu que cela aussi est poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas, et plus on a de science, plus on a de tourments. Donc finalement, ce qu'il trouve sur la sagesse, c'est que plus on réfléchit aux choses et plus on creuse, plus c'est peut-être même déprimant. Enfin, en tout cas, il ne trouve pas que plus de sagesse et plus de compréhension des choses, ça améliore vraiment le chemin public. Et puis, un autre passage au même sujet, au chapitre 2, les versets 13 à 15. Et j'ai vu ceci. Il reste quelque chose de plus à la sagesse qu'à la folie, comme il reste quelque chose de plus à la lumière qu'aux ténèbres. Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu aussi qu'un même sort les attend tous les deux. J'ai dit en mon cœur, le sort de l'insensé m'atteindra, moi aussi, Pourquoi donc aurais-je été plus sage? J'ai déclaré en mon cœur que c'est encore là une vanité. Donc il dit, d'accord, le sage il a l'avantage qu'il sait où il va et qu'il se rend compte de ce qui se passe, mais finalement la destinée finale c'est que tous les deux finissent dans une tombe et que ça change pas grand chose. Donc apparemment, dans la recherche de la sagesse, il n'a pas trouvé une satisfaction pleine et entière. Ensuite, du côté du succès et des richesses, au chapitre 4, le verset 4, où il dit « J'ai vu que toute peine et que tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Cela encore est vanité et poursuite du vent. » Donc, cette constatation qui est, je pense, encore assez vraie aujourd'hui et qu'on peut constater, que beaucoup de choses qu'on fait pour avoir du succès, pour réussir, c'est finalement motivé par la jalousie de l'autre, pour pouvoir rendre l'autre jaloux ou parce qu'on désire ce que lui-même a. Donc, et puis, bien entendu, une fois qu'on voit ça comme ça, ça n'y donne pas beaucoup de sens non plus. Et puis, encore une autre constatation au même sujet, au chapitre 2, les versets 18 à 21, il dit « J'ai haï toute la peine que je me donne sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Pourtant, il sera maître de toute la peine que je me suis donnée en usant de sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et je suis venu à me décourager de m'être donné toute cette peine sous le soleil. » Y a-t-il un homme qui est peiné avec sagesse, science et succès? Voilà que sa part est donnée à un autre homme qui n'y a pris aucune peine. C'est encore là une vanité et un grand mal. Donc, certains, peut-être, cherchent sens dans leur vie, dans l'idée de laisser quelque chose à la postérité, d'avoir une œuvre qui leur succédera. Bien, là encore, l'Ecclésiaste dit que ça n'a pas de sens parce que on ne sait jamais qui va gérer nos œuvres après nous et ce qu'ils en feront. Et puis, dans le cas de Salomon, c'est d'ailleurs assez pertinent puisque sitôt qu'il est décédé et que son fils a pris la succession, la première chose qu'il a réussi à faire, c'est être tellement oppressif que la majorité du royaume de Salomon s'est détachée de lui et que le royaume a été coupé en deux. Donc, je ne sais pas si c'était en constatant qu'il devait lui succéder, mais en tout cas, Salomon avait raison de faire cette réflexion sur le peu d'espoir qu'on peut placer en son successeur. Donc voilà ces réflexions sur la sagesse, le succès et la richesse. Alors peut-être que c'est des réflexions qu'on arrive encore assez facilement à admettre en tant que chrétien, puisqu'on sait bien que le sens de la vie n'est pas à chercher dans ce monde et que finalement c'est en Dieu que tout ça se trouve. Alors maintenant, j'aimerais passer à un autre point qui a été mentionné aussi par les Roberts. C'est que parfois, on pense que en tant que chrétien, si on se comporte bien, tout devrait bien se passer pour nous, que si on marche droit, eh bien, on est couvert. Ou bien, à d'autres moments, on croit que pour défendre l'honneur de Dieu, on doit pouvoir expliquer tout ce qu'il fait, pouvoir dire pourquoi il a permis une chose et pas une autre, pourquoi il a fait se produire tel événement et tel autre. Ou parfois, c'est même pas tellement pour défendre l'honneur de Dieu, mais c'est notre honneur de chrétien spirituel qui est censé avoir la communication directe avec Dieu. Qui voudrait qu'on sache toujours où Dieu veut en venir et qu'on puisse justifier tout ce qui se passe? Alors, l'Ecclésiaste, là aussi, nous dit autre chose. Il nous dit qu'il a essayé de comprendre ce qui se passe sous le soleil, et puis que finalement il n'y comprend rien, que le malheur frappe le juste comme le méchant, et que nous en tant qu'hommes n'avons pas les clés en main pour comprendre ce que Dieu fait. Alors là encore, j'ai pris deux passages qui illustrent un peu cette perspective. Donc au chapitre 8 et versets 14 à 17, où il dit « Il est une vanité qui se fait sur la terre, c'est qu'il y a des justes dont le sort est conforme à l'œuvre des méchants, et des méchants dont le sort est conforme à l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc fait l'éloge de la joie. parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon de manger, de boire et de se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de voir le souci que l'on se fait sur la terre, car les yeux de l'homme ne voient de sommeil ni de jour ni de nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Eh bien, l'homme ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. Ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouvera pas, et même si le sage prétend connaître, il ne peut pas trouver. Donc, c'est une constatation que, même avec toute la sagesse du monde, on n'arrive pas à déchiffrer ce que Dieu fait. Alors, bien entendu, dans la Bible, Dieu nous révèle une partie de ses desseins, hein, une partie de ce qu'il a prévu, et à d'autres moments, il donne à des prophètes de révéler certaines choses qu'il a prévues, ou le sens de certains événements. Mais je crois que finalement, ça reste des cas particuliers et que, ben, dans l'ensemble, on n'est pas censé comprendre tout ce que Dieu fait. Et parce que finalement aussi, c'est lui qui est Dieu et nous ne sommes que des hommes, et qu'on doit garder cette humilité. Et même le fait d'être des chrétiens ne nous place pas loin au-dessus de tous les autres sous cet aspect-là, et ne nous donne pas le droit de penser qu'on comprend tout ce que Dieu fabrique. Un autre verset à ce sujet, au chapitre 11, les versets 4 à 6. Où il est écrit « Qui observe le vent ne sèmera point, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais point le mouvement du vent ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Alors, bien sûr, depuis l'époque où ça a été écrit, on a fait beaucoup de progrès dans la météo et on sait relativement bien où va le vent et on observe beaucoup mieux ce qui se passe dans le ventre des femmes enceintes qu'à l'époque. Mais, par contre, sur l'œuvre de Dieu, je crois qu'on est en partie plus avancé grâce au supplément de révélation qu'on a eu depuis, mais en partie seulement, et que ça reste aussi le cas qu'on ne connaît et ni ne comprend pas tout. Alors, bon, arrivé à ce stade du message, on peut avoir l'impression que c'est assez fataliste, voire défaitiste. Et puis, je crois quand même que l'Ecclésiaste nous dit aussi quelques autres choses et qu'il a quelques invitations positives pour nous sur ce qu'il convient de faire et l'optique qu'il convient d'adopter. Des choses qui transparaissent déjà dans les deux passages que je viens de citer. Entre autres, l'idée de se réjouir et de profiter des biens que Dieu nous donne, et finalement des choses assez simples comme manger et boire, et puis l'idée aussi d'être actif et de faire ce qu'on trouve à faire de bon, pas dans l'idée de construire un succès qui nous placera au-dessus du reste de l'humanité et restera gravé dans les livres d'histoire, mais simplement parce que je crois que ça fait partie de la destinée humaine d'avoir une certaine activité sans se gâcher la vie en courant après de succès, ce genre de choses. Donc j'ai pris encore un passage qui reprend aussi ces deux aspects, au chapitre 9, les versets 7 à 10. « Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin. » Car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur la tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous tes jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, on voit... Et j'ai encore rien dit, moi. Donc là, on voit bien ces deux idées de de profiter de ces choses qu'on, dont on peut se réjouir et d'avoir des activités qui sont à notre portée et qui sont raisonnables. Bien entendu, on voit aussi que sur l'idée de la vie après la mort, ils n'avaient pas encore la même perspective qu'on a aujourd'hui après la venue du Christ, après la révélation du plan du salut de Dieu. Et c'est clair que ça change certaines choses. Alors maintenant, il y a peut-être deux manières dont on peut prendre cet enseignement d'Ecclésiaste en sachant qu'il y a eu la révélation du Christ depuis. Une manière, c'est de se dire que toutes ces réflexions faites dans un cadre sans espérance pour la vie après la mort, ben, c'est une manière que Dieu a permis pour nous aider à nous rendre compte du peu de sens que fait la vie si on ne regarde pas, si on ne regarde pas à lui, si on ne regarde pas au plan de salut et à la destinée éternelle. Et je crois que ça peut nourrir nos réflexions dans ce sens-là. Et puis d'un autre côté, je crois que ça donne aussi une certaine perspective sur cette vie toute humaine qu'on a à vivre aujourd'hui sur cette terre, et que même avec tous les aspects spirituels, on continue à avoir aussi notre vie à mener. Et d'ailleurs, une chose que je trouve intéressante, c'est de voir que Jésus, tout en accomplissant pleinement la volonté de Dieu durant sa vie, a finalement aussi relativement bien suivi ses conseils de l'Ecclésiaste, puisqu'il se traînait une réputation de buveur de vin, de personne qui fait bonne chère et qui ne méprisait pas d'être dans les fêtes et dans les banquets. Donc finalement, il n'y a pas forcément une contradiction entre ces conseils de l'Ecclésiaste et ce qui est venu ensuite, mais plutôt quelque chose qui se complète. Ensuite, je vais aussi prendre un passage qui parle justement du bonheur et du malheur, au chapitre 7, le verset 14, où il dit « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. » Donc là, justement, cette idée que finalement le malheur et le bonheur arrivent l'un comme l'autre, et puis que d'un côté, Dieu a prévu les deux et que dans les deux cas, on a quelque chose à en faire. Donc, Dieu nous autorise à profiter du bonheur quand il nous le donne. Le contraire serait d'ailleurs assez cruel, mais mais des fois, on peut être tenté de culpabiliser quand les choses vont bien alors que tant d'autres choses vont mal dans le monde. Et puis, quand ça va mal, il nous encourage à profiter de se remettre en question, de réfléchir. Et je crois que Dieu utilise aussi les jours de malheur pour nous faire avancer. Je crois que c'est très clairement sorti aussi dans le témoignage de Laure et de Daniel. Et je crois que c'est une perspective qui est bonne à prendre. Ensuite, encore un autre passage que j'aime bien, au chapitre 11, le verset 9, où il est dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. » C'est drôle, d'habitude j'ai besoin de dire quelque chose pour que les gens commencent à rire, mais je crois que l'Ecclésiaste se suffit amplement. Bon. Donc, ça, c'est un verset qui m'a aussi fait du bien dire des fois, parce que des fois, en tant que chrétien engagé, peut-être même encore particulièrement chez les jeunes, on peut avoir tendance à croire que tout ce qui ressemble à du loisir et qu'on ne peut pas directement chiffrer en utilité pour le royaume de Dieu, ça serait quelque chose qui serait à bannir, qui serait de la perte de temps. Et puis, là aussi, l'Ecclésiaste nous dit qu'on a le droit de profiter de certaines choses, que finalement avoir des moments où on passe passer des bons moments entre amis, où on a des discussions qui sont intéressantes et qui sont drôles mais qui font peut-être pas avancer grand chose, c'est aussi quelque chose à quoi on a droit, avec aussi cette idée quand même que c'est pas une invitation à la débauche et que Dieu nous regarde aussi dans ces moments-là, donc on peut profiter tout en continuant de respecter ce que Dieu nous demande. Alors voilà, maintenant, j'arrive bientôt au bout, j'aimerais encore lire les recommandations finales de Cyril de l'Ecclésiaste au chapitre 12 et versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc finalement, après toutes ces réflexions, l'Ecclésiaste donne des recommandations qui sont relativement courtes. Ben, c'est simplement de craindre Dieu, de marcher avec lui, et puis ben, de se rappeler que Dieu prendra en compte tout ce qui aura été fait, et même en secret, une idée que Jésus a aussi plusieurs fois reprise. Et puis je crois que c'est une bonne chose. Je vais encore mettre ça en parallèle avec un passage, pour une fois pas dans l'Ecclésiaste, mais dans Michée, chapitre 6, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc là aussi, finalement, des recommandations qui ne vont pas chercher dans des très hautes sphères spirituelles, mais simplement de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bon par rapport aux autres, et de marcher avec Dieu. Et puis, ben, je crois que c'est peut-être des assez bonnes choses pour vivre notre vie et la vivre avec Dieu. Alors voilà, c'était ce que j'avais prévu de vous dire sur ce livre de l'Ecclésiaste. Je vous encourage à le lire parce que tout ça est un peu plus développé que les quelques versets que j'ai pris. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de dimanche.